Il est 18h sur Culture, le journal François Chagnon.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Emmanuel Macron envisage de prêter le feu nucléaire français pour défendre l'Union européenne et subit un tir nourri de critiques de la part des oppositions. Le choléra gagne du terrain à Mayotte. La situation sanitaire dans l'île empire à vitesse grand V. Éric Dupond-Moretti veut armer la justice contre la criminalité organisée et encourager les repentis à dénoncer leurs anciens associés. Enfin, la première ministre italienne mènera la liste de son parti post-fasciste aux élections européennes. La France doit-elle mettre ses ogives nucléaires au service de nos voisins de l'Union européenne ? Mettons tout sur la table, lance Emmanuel Macron dans un entretien aux journaux du groupe Ebra. Le chef de l'État prêche depuis des années pour une Europe de la défense plus intégrée. Bonsoir Nicolas Ballu.
Bonsoir.
Les propos d'Emmanuel Macron provoquent donc une salve de critiques de tous les côtés de l'opposition. La question des capacités nucléaires françaises s'invite donc dans la campagne des élections européennes.
Oui, on est là dans le prolongement du discours présidentiel de jeudi dans lequel Emmanuel Macron plaidait en faveur d'une défense européenne crédible, je cite. Il réitère, je suis pour ouvrir ce débat de la sécurité européenne qui doit donc inclure la défense antimissile, les tirs d'armes longue portée, l'arme nucléaire pour ceux qui l'ont ou qui disposent sur leur sol de l'arme nucléaire américaine. L'arme nucléaire, la doctrine française, est qu'on peut l'utiliser quand nos intérêts vitaux sont menacés. J'ai déjà dit qu'il y a une dimension européenne dans nos intérêts vitaux. Fin de citation. De droite comme de gauche, les oppositions poussent de haut cri. Nous touchons au nerf même de la souveraineté française. Un chef de l'État français ne devrait pas dire ça, s'emporte François-Xavier Bellamy, à la tête de liste LR aux européennes. Selon la France Insoumise, Emmanuel Macron vient de porter un nouveau coup à la crédibilité de la dissuasion nucléaire française. Après l'arme nucléaire suivra le siège permanent de la France au Conseil de l'ONU, qui lui aussi sera baradé à l'Union européenne, projette déjà l'eurodéputé RN Thierry Mariani. Dans cette interview, Emmanuel Macron a transgressé ce qui a longtemps été un tabou pour les uns ou une évidence pour les autres. La dissuasion nucléaire française, ça ne se partage pas. Que deviendrait alors l'autonomie stratégique française, l'autonomie de décision, que voudrait dire exactement et concrètement un partage? Et si la France cherche la construction d'une Europe de la défense, les partenaires européens de la France préfèrent se tourner actuellement vers le parapluie de l'OTAN.
Merci Nicolas Ballu. Le choléra se répand à Mayotte. L'agence régionale de santé recense 26 cas de la maladie aujourd'hui. C'est deux fois plus que vendredi, date du dernier bilan. Alors les autorités tentent de mettre en place les structures nécessaires pour éviter la propagation d'une épidémie, Faustine Calmel.
Il y a d'abord la prise en charge des malades face à la multiplication des cas. Une nouvelle unité choléra a ouvert aujourd'hui à l'hôpital de Mamoudzou. La première, 14 lits en tout, était déjà débordée et ne pouvait plus accueillir de patients. Et puis il y a la prévention. L'agence régionale de santé organise des maraudes d'information et des opérations de vaccination, notamment dans la commune de Kungu. C'est là que 3 cas de choléra dits autochtones ont été recensés vendredi. Les premiers à se développer directement sur l'île, les autres ayant été importés des Comores voisines, ce qui fait craindre à Mansour Kamardine, député Les Républicains de Mayotte, un développement rapide de l'épidémie, d'autant que l'eau ne coule au robinet toujours que 2 jours sur 3.
Quand on n'a pas la possibilité de laver les mains, quand on n'a pas la possibilité de se laver tous les jours, c'est le terrain propice au développement du choléra. Le choléra n'a pas besoin de beaucoup de temps pour se développer et par conséquent, c'est un risque majeur. Ce qu'il faut, ce n'est pas des petites structures d'unités à ouvrir par-ci, par-là. On va très vite être dépassé. Ce qu'il faut, c'est mettre en place sous le sceau de l'urgence une véritable campagne de vaccination pour protéger les populations.
Campagne de vaccination générale qui n'est pas à l'ordre du jour. Le centre hospitalier de Mayotte espère recevoir prochainement des renforts de soignants.
Faustine Calmel. Éric Dupond-Moretti renforce l'arsenal de la justice contre le crime organisé. Dans une interview accordée à la Tribune dimanche, le garde des Sceaux annonce la création d'un parquet national anticriminalité organisé et une refonte du statut de repenti pour les témoins inspiré du modèle italien.
On a une loi sur les repentis qui ne marche pas du tout. Elle date de 2004. Ça a été utilisé 20 fois. Alors moi, je suis allé voir ce qu'ont fait les Italiens, qui historiquement ont lancé un combat acharné contre la mafia. Ils ont mis en place ce statut du repenti. Vous savez, la grande difficulté, les grands bandits, le haut du spectre, ils connaissent parfaitement les techniques policières. Ils savent qu'après avoir utilisé un véhicule, on le brûle. On met des gants pour l'ADN. On sait identifier une balise quand elle est posée sous un véhicule. Toutes les techniques policières, ils les connaissent. Bien. Ce qui nous manque, c'est des témoins. Les protéger, protéger leur famille, faire en sorte que sur le terrain des peines, il y ait des peines réduites quand il y a une collaboration. Voilà, ça ne coûtera pas un centime aux contribuables. Pourquoi ? Parce qu'on a mis en place une gestion des avoirs criminels au travers d'un organisme qui s'appelle l'AGRASC. L'année dernière, l'AGRASC a saisi 1,4 milliard d'euros d'argent criminel. C'est ça qui va permettre de payer le statut des repentis.
Et l'Union syndicale des magistrats salue les annonces du garde des Sceaux. La première ministre italienne mènera la liste de son parti aux élections européennes. Giorgia Meloni l'a annoncé aujourd'hui en conclusion du congrès de Fratelli d'Italia. La dirigeante d'extrême droite compte unir les droites européennes et renvoyer la gauche dans l'opposition.
Je suis un soldat et les soldats n'hésitent pas à aller sur le front. C'est une Giorgia Meloni combattante qui s'est affichée devant ses pairs sur les bords de l'Adriatique ce dimanche. Sous des ovations nourries, la présidente du Conseil italien fait officiellement l'annonce tant attendue de sa candidature pour le scrutin européen, transformée en référendum sur son gouvernement.
J'ai décidé de me présenter pour guider les listes de Fratelli d'Italia dans toutes les circonscriptions. Je le fais parce que je veux demander aux Italiens s'ils sont satisfaits du travail que nous faisons en Italie et en Europe. Je le fais parce que je suis présidente des conservateurs européens qui veulent jouer un rôle décisif pour changer l'orientation des politiques européennes.
L'Italie peut changer l'Europe, c'est le slogan et l'ambition affichée par la candidate populiste qui veut une Europe différente, celle des nations. Fière d'être quelqu'un du peuple, Giorgia Meloni, appelez-moi Giorgia, dit-elle, compte bien y arriver en pariant sur sa popularité. Leader de la formation à la flamme tricolore qui est en tête des sondages, elle veut renvoyer la gauche à l'opposition dans l'hémicycle européen et vise 25 sièges au Parlement de Strasbourg, plus du double qu'aujourd'hui. De quoi faire peser l'Italie et les souverainistes dans les institutions européennes, assure-t-elle. Mais si la tête de liste Meloni est prête à incarner et concentrer toute la campagne électorale jusqu'au point d'orgue de son ascension fulgurante le 9 juin prochain, la présidente du Conseil, elle, promet aux Italiens qu'elle n'abandonnera pas sa charge gouvernementale.
La correspondance en Italie de Blandine Hugonnet, le parti de Giorgia Meloni est arrivé en tête des élections italiennes de 2022 avec 26% des suffrages. C'est à peu près le score que lui prédisent les sondages à l'approche des élections européennes des 6 et 9 juin. Le Hamas se prononcera demain sur une proposition israélienne en vue d'un cessez-le-feu à Gaza. Le mouvement islamiste souhaite un cessez-le-feu permanent, le retour volontaire des déplacés, un échange de prisonniers palestiniens contre des otages israéliens et la fin du siège de la bande de Gaza. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, demande aux États-Unis aujourd'hui de convaincre Israël de ne pas attaquer Rafah. Plus d'un million et demi de Palestiniens s'entassent dans cette ville refuge du sud de l'enclave. La Russie revendique la prise d'un nouveau village ukrainien sur le front Est. Les forces de Moscou ont progressé rapidement dans ce secteur cette semaine. Le commandant en chef de l'armée ukrainienne admet que la situation sur le front s'est détériorée à cause de plusieurs succès tactiques des Russes dans plusieurs secteurs. I can't breathe, je ne peux pas respirer. C'était les derniers mots de George Floyd, cet Afro-Américain mort il y a 4 ans lors d'une interpellation par la police. Eh bien, il y a 10 jours, une scène similaire s'est produite dans l'État américain de l'Ohio. Frank Tyson, un Afro-Américain de 53 ans, est mort sous le genou d'un policier. Et la vidéo de cette interpellation a été dévoilée cette semaine par la police locale, Loïc Loury.
Au début de cette vidéo de 36 minutes, deux policiers s'approchent d'une voiture qui avait percuté un poteau électrique. Il est alors un peu plus de 20 heures. Son conducteur est dans le bar, leur indique un passant. Il s'appelle Frank Tyson, sortez-le d'ici, dit une femme, vous ne me tuerez pas ce soir, hurle-t-il aux officiers, avant le début d'une interpellation musclée. Appelez le shérif, demande Tyson, avant d'être maîtrisé et menotté au sol, l'un des policiers maintenant son genou sur le haut de son dos, moins d'une minute. Je ne peux pas respirer, répète Tyson avant de perdre connaissance. Il faudra 5 minutes pour que l'on prenne son pouls et 7 ou 8 de plus pour l'arrivée des secours, mais trop tard. Les deux policiers ont été placés en congé administratif le temps de l'enquête. Dans cette vidéo, on entend l'un d'eux, désinvolte, expliquer avoir toujours voulu participer à une bagarre de bar.
À la correspondance à New York de Loïc Loury. La météo, le soleil revient par la façade atlantique, le ciel reste couvert et pluvieux partout ailleurs. Quelques orages à prévoir en Picardie et en Normandie. Il fait 13 à Brest et Toulouse, 15 à Lyon-Belfort, 17 à Paris et jusqu'à 22 à Nice.